Bonjour à tous.
Donc le titre de ce message est « Jésus est le serviteur de l'Éternel ». Mais avant de commencer, est-ce que vous connaissez le principe d'un flashback ? Alors, normalement, vous avez tous vu des films où il y a des flashbacks, de flashbacks, de flashbacks, même dans certains. Et alors, au cinéma ou à la télé, le flashback, c'est un procédé d'écriture de scénario qui, au sein de la continuité d'une histoire, introduit une action qui s'est déroulée chronologiquement avant l'action dans laquelle on est actuellement. Et aujourd'hui, nous vivons une réalité que nous avons devant nous, mais nous pouvons aussi nous souvenir d'événements passés, en particulier d'éléments qui étaient annoncés dans le passé, qui se sont vraiment arrivés par la suite. Par exemple, on pense à des événements de l'Ancien Testament qui se sont passés dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Ésaïe, qui a écrit plusieurs prophéties concernant le serviteur de l'Éternel 700 ans avant la venue de Jésus sur terre. Et je le répète, je vais le dire plein de fois, mais imaginez que c'est quelqu'un qui a prédit par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui lui a permis la venue de Jésus sur terre 700 ans avant. Il n'a pas vu de son vivant. Donc je vais rappeler un peu le contexte de Ésaïe. Ésaïe est constitué je rappelle le contexte d'Ésaïe par rapport au chant du serviteur. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis sur le Ésaïe 42, verset 1 à 9, c'est le premier chant du serviteur. Il y en a trois autres, Ésaïe 49, Ésaïe 50 et Ésaïe 52, qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Et le but de cette série, c'est vraiment d'approfondir ensemble ces textes de l'Ancien Testament, de Ésaïe, qui parle de Jésus, en fait. Hein. Le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. J'essaie de vous le démontrer à travers le message aujourd'hui. En vue, petit à petit, d'arriver à la Pâque qui a lieu en avril. Et je vous rappelle que c'est un peu comme ce qu'on avait fait à Noël, on avait repris Ésaïe sur le thème de Emmanuel, Dieu était avec nous, et ici on est sur le thème du serviteur de l'Éternel, Jésus, en vue de préparer Pâques. Et on verra finalement au fur et à mesure que Emmanuel et le serviteur de l'Éternel, c'est la même personne en fait. Donc Ésaïe a vu se succéder quatre rois de Juda. Donc le roi Ozias, le roi Jotham, Akaz et Ézéchias. Donc rappelez-vous, à ce moment-là, il y a le royaume d'Israël qui est divisé en deux, donc le royaume du nord qui s'appelle le royaume d'Israël et le royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. Le roi Ozias avait amené une stabilité qui était financière et politique à Juda, donc le royaume du sud, dans lequel prophétise Ésaïe. Et puis ensuite, il y a eu d'autres rois, Jotham, Akaz, puis Ézéchias. Dans Ésaïe 42, on est à l'époque de Ézéchias. En fait, le dernier moment où Ésaïe a apporté une prophétie, c'était au moment de Ézéchias. Il va prophétiser notamment sur la déportation de Juda par le roi de Babylone, qui aura lieu en 586, à cause de l'endurcissement dans le péché de plusieurs rois, mais en particulier d'un roi qui s'appelle le roi Manassé, qui est le fils de Ézéchias. Voilà. Donc Dieu avait tellement pris soin de son peuple, mais son peuple lui a rendu très mal. Dans sa justice, Dieu devait punir ce péché, ce qui a amené cette condamnation à venir de Juda. Mais en parallèle, Dieu s'est gardé un reste fidèle dans Juda. Ce reste fidèle qui découle de la lignée de Genèse 3,15, qui va depuis Seth, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, et le dernier bon roi qu'a connu Ésaïe, c'était Ézéchias. Et en complément de ces rois, Dieu a envoyé des prophètes pour parler de sa part, pour prédire l'avenir et pour appeler le peuple et son roi à revenir à lui et à se repentir. Ésaïe était bien apprécié des différents rois, sauf de Manassé, qui était le fils d'Ézéchias, qui l'a empêché de continuer à prophétiser. Et selon les commentateurs, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de prophétie d'Ésaïe au moment de Manassé. La tradition dit aussi que Ésaïe s'est caché dans un tronc alors qu'il était persécuté et que Manassé a ordonné qu'on scie l'arbre avec Ésaïe dedans. Donc ça serait à cause de ça que dans Hébreux chapitre 11, vous savez, il y a les héros de la foi, certains ont été lapidés, certains ont été sciés. Donc ça pourrait faire référence au prophète Ésaïe. Son ministère a eu lieu de 740 à peu près 700 avant Jésus-Christ. Et ce livre, comme thème principal, il annonce l'exil à venir des Judéens, comme je l'ai déjà dit, à Babylone, en raison de leur immoralité. Ce livre insiste sur la sainteté de Dieu Il prophétise sur la naissance d'un enfant qui s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous, qu'on a déjà vu en novembre et décembre dernier, et il prophétise sur le serviteur souffrant de l'Éternel qui s'avère être Jésus-Christ. Et enfin, pour terminer cette introduction, Ésaïe est beaucoup, beaucoup, beaucoup cité dans le Nouveau Testament avec les psaumes. C'est les deux livres les plus cités dans le Nouveau Testament. Et il est notamment beaucoup cité dans Matthieu, comme nous allons le voir par la suite. Donc pour le message d'aujourd'hui, je propose de voir ce message en trois parties, pas forcément dans un ordre chronologique. D'abord, on va se concentrer sur l'Éternel, Créateur et seul digne de gloire. Avant de parler du serviteur de l'Éternel, parlons d'abord de l'Éternel. Qui est l'Éternel ? Ensuite, nous verrons que le serviteur de l'Éternel fait justice. Et enfin, troisièmement, nous verrons que le serviteur de l'Éternel est la lumière des nations. Donc l'Éternel, Créateur et seul digne de gloire. Selon le verset 5, l'Éternel est le Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de la vie sur terre. Il donne le souffle de vie, la respiration à ceux qui y vivent. Et tout ça, ça me fait penser à Genèse, forcément. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et j'ai entendu une sœur qui priait tout à l'heure pour remercier Dieu pour sa création. Et c'est vraiment ça, c'est notre Dieu créateur. Et ce même Dieu qui est intervenu pour son peuple, tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à ce passage d'Ésaïe. Ce même Dieu, c'est notre Dieu créateur. Et nous verrons que ce même Dieu créateur va être à l'origine d'une nouvelle création. Selon le verset 9, avant que les événements ne soient en germe, donc c'est-à-dire qu'il va être créé, je vous les annonce. Mais avant cela, on va d'abord voir que l'Éternel est digne de gloire. Au verset 8, l'Éternel rappelle son identité, son nom. Il dit « je suis », entre guillemets. Quand il se révèle, ça me fait penser à quand il se révèle au peuple d'Israël dans Exode. Il est le seul qui mérite la gloire, la louange, contrairement aux sculptures sacrées, aux idoles, aux faux dieux. Ésaïe 41, versets 5 à 7, donc c'est le passage, le chapitre qui est juste avant Ésaïe 42, qui dit « Les îles le voient et elles ont peur, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement et chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Nous voyons que Dieu entre en procès avec ses adorateurs d'idoles, ses faiseurs d'idoles. Et en fait, ces adorateurs ne peuvent rien avancer comme preuve, parce que ces idoles ne restent que du néant. Un autre passage sur la dignité de l'Éternel, le psaume 96, versets 4 à 6. « Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux, petit dé. Hein. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. » Alors que l'Éternel a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Dieu ne donne sa gloire à aucun autre. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Rien ne peut prendre sa place, ni les idoles, ni les hommes, et en particulier aucun roi. La gloire de Dieu ne peut pas être appropriée par l'être humain. C'est un Dieu qui est jaloux, qui refuse de partager cette gloire. Et d'un point de vue, on pourrait se dire que il est capricieux peut-être. Mais si on pense cela, nous serions totalement dans l'erreur. Le même Dieu qui a tout créé, il a aussi toute autorité. Il est le potier et nous sommes le vase. S'il choisit de révéler son nom, s'il nous demande de l'adorer lui seul, c'est parce qu'il le mérite, mais aussi parce que sinon, nous risquons d'adorer autre chose que lui, qui va devenir pour nous une idole. Et ça va nous faire tomber dans le péché, exactement comme cela est arrivé au peuple d'Israël, mais aussi à l'Église primitive, comme nous le voyons dans Actes. Il y a un passage dans Actes 5 qui dit qu'au début de l'Église, Ananias et Saphira ont menti sur le prix du champ qu'ils ont vendu, dont ils ont fait des dons à l'Église, et sont tombés raides morts à cause d'un mensonge, parce qu'ils avaient placé l'argent au-dessus de Dieu. Dieu ne tolère pas de rival. Alors, on peut se poser la question, et pour nous, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce passage pour nous ? Eh bien, Dieu est le seul Dieu. Qu'est-ce que cela change dans notre vie ? Eh bien, je crois que cela devrait nous pousser à l'adorer, lui seul. Je ne dis pas qu'on ne doit pas traiter le problème des idoles, mais c'est en se concentrant sur qui est Dieu que nous serons tellement pleinement dans sa présence dans l'adoration, dans sa présence, que nous ne ferons plus attention aux idoles qui, elles, ne sont rien. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter le problème des idoles, mais c'est en se concentrant sur Dieu qu'on va régler le problème. C'est vraiment à la source. Donc l'Éternel Créateur, l'Éternel digne de gloire, l'Éternel aussi qui annonce l'avenir. Au verset 9, Isaïe dit que les premiers événements se sont produits. Il parle de tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, lui a donné sa loi, lui a permis d'accéder à sa présence avec le tabernacle, l'a guidé pendant les 40 années dans le désert malgré sa désobéissance. Il a permis au peuple d'Israël de s'emparer de Canaan avec son leader qui était Josué à ce moment-là. Il est resté avec eux pendant toute la période du livre des juges. Ils ont demandé un roi, il leur a donné Saül, puis David, l'homme de Dieu. Ensuite, son fils Salomon qui lui a construit un temple. Puis le royaume s'est divisé en deux, Israël au nord, Juda au sud. Et le royaume d'Israël a chuté avec l'invasion des Assyriens en 722. Et je vous rappelle que Ésaïe, il se trouve entre 740 et 700. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai découvert en préparant ce message, en général, les prédicateurs, on a beaucoup de chance parce qu'on prépare les messages. Et du coup, on se plonge vraiment dans la parole et on voit des choses de plus en plus en profondeur et on apprend plein de choses. Et j'ai découvert que c'est Akaz, donc le roi de Juda, qui se sentait menacé par une coalition qui était Israël et la Syrie, donc là, espace Syrie, le pays de Syrie. Et du coup, le roi de Juda, qui était menacé par le royaume du Nord et du pays Syrie, a demandé l'aide de la Syrie grâce à de l'argent qu'il a envoyé. Donc ça, c'est dans 2 rois 16. Et du coup, grâce à cela, le roi de la Syrie est venu et en fait, il a attaqué le royaume du Nord et c'est comme ça qu'on a eu la déportation en 722 du royaume du Nord. Donc si on reste sur Juda, à ce moment-là, il ne reste plus que le royaume du Sud. Il y a eu plusieurs rois, plutôt des bons que des mauvais, qui se sont succédés à la tête du royaume de Juda. Et Ézéchias était le dernier bon roi que Ésaïe avait connu. Au verset 9, Dieu parle aussi de révéler et d'annoncer de nouveaux événements avant qu'ils ne soient en germe, avant qu'ils n'existent. Et il insiste, il le répète 2 fois, je révèle des nouveaux événements et avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Ici, Dieu est capable d'annoncer l'avenir. Et ce n'est pas seulement le fait de connaître l'avenir qui lui permet d'annoncer l'avenir. Ce n'est pas « Ah, je vois dans une boule de cristal, je vais voir ce qui se passe ». Non, c'est parce que notre Dieu, l'Éternel, et c'est lui qui fait lui-même survenir les événements. Et c'est parce qu'il est l'auteur de tous les événements qui se passent, qu'il connaît l'avenir et que du coup, il peut annoncer cet avenir. Je le répète, ce n'est pas parce que Dieu voit l'avenir, c'est parce que Dieu est à l'origine de toutes les choses qui se passent. Et c'est pour cela qu'il peut connaître l'avenir et l'annoncer. Et cela contraste totalement avec les idoles qui ne peuvent, elles, révéler l'avenir. Et on voit ça dans Ésaïe 41, versets 21 à 23. Donc encore une fois, on est dans Ésaïe 42, Ésaïe 41, c'est juste avant. « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense, dit le roi de Jacob. Qui les présente? Qui nous révèle ce qui doit arriver? Quelle prédiction avez-vous déjà faite? Révélez-le. Nous y réfléchirons et saurons ainsi si elles se sont accomplies. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Révélez ce qui arrivera plus tard. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour que nous le voyions et l'examinions ensemble. » Dieu connaît l'avenir, il envoie ses prophètes pour parler de sa part à son peuple. Et Ésaïe lui-même fait partie de ces prophètes. Il va prophétiser sur la déportation du peuple de Juda jusqu'à Babylone en 586, soit plus de 100 ans après son message. Et pour simplifier, en fait, les événements anciens dont on a parlé, il y a beaucoup d'événements anciens, mais on pourrait résumer en l'exode d'un peuple, du peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte et qui a erré pendant les 40 ans dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Et les nouveaux événements auxquels se réfère Ésaïe, ici, ce serait un nouvel exode avec un nouveau Moïse et une nouvelle alliance, est ce que nous verrons plus tard dans mon message.
Mais avant cela, nous pouvons nous demander comment est-ce que cela peut encore s'appliquer à ma vie aujourd'hui. Eh bien, soyons encouragés à placer notre confiance dans la parole de Dieu, parce que non seulement il connaît l'avenir, mais il détermine cet avenir. Il est acteur dans le présent en vue de notre avenir, de notre destinée. Dieu est au contrôle de tout. Il est souverain. Et s'il annonce les événements inscrits dans la Bible à l'avance, c'est que nous pouvons vraiment lui faire confiance. Lorsque nous sommes dans des périodes de doute, de souffrance, rappelons-nous que toute chose qui arrive a toujours un but. Et parfois, les prophéties annoncées par les prophètes ne survenaient pas de leur vivant. Il peut se passer plusieurs centaines d'années avant qu'elles n'arrivent. On vient de le voir avec Ésaïe qui avait prophétisé la déportation, il n'a pas vécu lui-même. Et de la même manière, peut-être que actuellement, nous ne voyons pas quand est-ce que la crise du Covid-19 va se terminer. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu a un but derrière cette crise. Et que tant qu'il ne sera pas atteint ce but, quel qu'il soit, il permettra à cette crise de continuer. Mais comme évoqué avant, nous sommes le vase et il est le potier. Lui seul a tout le recul pour savoir agir conformément à ce qu'il y a de mieux pour sa gloire. Et Dieu insiste sur cette faculté de révéler l'avenir à son peuple, comme j'ai déjà dit, pour contraster avec ses idoles qui, elles, ne peuvent annoncer cet avenir. Et Ésaïe prophétise sur cet événement qui surviendra 700 ans plus tard, la venue d'un serviteur, le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir dans les deux prochaines parties. Donc d'abord, nous verrons que le serviteur de l'Éternel fait justice. Dans les versets 1 à 4, Dieu prend lui-même la parole et parle à son serviteur. Il le soutient, il l'a choisi, son serviteur a toute son approbation. Et ça me fait penser au baptême de Jésus, quand Dieu le Père lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Ce terme d'approbation est repris. On dit aussi que Dieu a mis son esprit sur lui, c'est-à-dire qu'il est revêtu du Saint-Esprit. De la même façon, on sait que dans Matthieu 3,16, lors du baptême de Jésus, Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Alors la Bible Second 21, qui est affichée dans le texte que Alain a lu, dit qu'à la fin du verset 1, le serviteur de l'Éternel révélera le droit aux nations. Et c'est vrai que personnellement, je n'ai pas trouvé ça très clair. Donc j'ai regardé une autre version de la Bible qui était un peu plus directe, donc la Bible du Semeur, qui dit « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. » Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Donc, il établira la justice pour les nations. J'ai trouvé ça plus clair, voilà, que révéler le droit aux nations. Donc, le serviteur de l'Éternel aura pour rôle d'établir cette justice sur la terre à travers sa loi. Et on sait que c'est ce qui va arriver à travers Jésus. Avec l'avènement de Jésus, avec son incarnation, le fait qu'il vienne sur terre, le fait qu'il naisse à Bethléem, durant tout son ministère, lors duquel il va apporter sa propre loi, souvenez-vous du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7, mais c'est aussi avec sa mort sur la croix et sur la résurrection que la justice sera établie pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire par son sacrifice. Par son sacrifice, il va accomplir la justice de Dieu pour que nous devenions nous-mêmes justes devant Dieu. Et on voit cela dans 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Je répète, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Et j'apprécie beaucoup ce verset 4 de Ésaïe 42, qui nous dit que Jésus ne faiblira pas. Il ne se le relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. Et ça me rappelle que Jésus a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à Golgotha. Il aurait pu avoir des moments de doute, et il en a eu à Gethsémané, mais par amour pour nous, pour toi, pour moi, il est allé jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne, pour accomplir sa mission, celle pour laquelle il s'est dépouillé de tous ses avantages pour prendre une condition d'homme, de serviteur, pour nous sauver de la mort éternelle, comme on peut le voir dans Philippiens chapitre 2. Donc le serviteur de l'Éternel fait justice, et on va voir maintenant que le serviteur de l'Éternel n'utilise pas la violence. Ce passage de Ésaïe 42 est repris dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, 18 à 21, et pour avoir un peu le contexte, je vous propose de lire le verset 14 au verset 23. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, les nations espérant en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Donc Jésus vient de guérir un homme qui avait une main paralysée le jour du Shabbat, et les pharisiens se concertent pour savoir comment le faire mourir. Suite à cela, il va guérir une foule qui le suivait, mais aussi curieux que cela puisse paraître, il ne dit pas à la foule « Ok, faites entendre ma voix ». Non. Au contraire, il dit de ne pas le faire connaître. Et pour argumenter cela, l'évangéliste Matthieu va citer Ésaïe 42, verset 1 à 4, notre passage du jour. Et on peut se poser la question, c'est dans quel but ? La réponse est tout en haut, hein, c'est le titre. Son but, c'est de démontrer que Jésus ne fera pas usage de violence pour établir son règne. Il n'y aura pas de contestation, il n'y aura pas de cri, il ne fera pas entendre dans sa voix dans le sens de contester, il ne va pas blesser. Quand on parle de casser le roseau abîmé, on parle de blesser. Pour établir la justice sur la terre, pour établir son règne. Donc Jésus ne va pas utiliser de violence pour établir son règne. Il le fera avec douceur et avec vérité. Et son but n'était pas que la foule répande trop ce qu'il a fait à ce moment-là, parce qu'elle aurait pu être tellement nombreuse que ça aurait pu avoir comme une sorte de révolte contre les autorités juives de l'époque, et ça aurait pu finir en bain de sang. Mais je pense que Jésus ne voulait pas que ça se passe ainsi. Jésus ne voulait pas faire usage de violence. Et une autre raison pour laquelle Matthieu cite Ésaïe 42, c'est tout simplement qu'il l'applique le fait que le serviteur de l'Éternel, c'est bien Jésus. Le serviteur de l'Éternel, c'est bien Jésus. Ce serviteur qui a été annoncé 700 ans avant. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous ? À l'époque, cela revenait au roi d'établir la justice dans leur royaume. Et Jésus est notre roi qui a établi sa justice éternelle, sans violence. Et le peuple de Juda, il avait l'impression que Dieu ne faisait pas appliquer sa justice. Et on peut se demander aussi peut-être parfois si dans nos situations, est-ce que Dieu fait preuve réellement de justice ? Et je pense que la réponse est oui. Et pour ce faire, je propose de lire Ésaïe 40, versets 27 à 31. « Pourquoi dis-tu Jacob ? Et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, encore une fois, l'accent sur la création. Il ne se fatigue pas, ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Un verset qu'on cite beaucoup, hein, quand on est fatigué. « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Ce passage nous rappelle que parfois, nous ne voyons pas la justice de Dieu s'exercer, mais en nous confiant en lui et en nous rappelant qu'il a tout créé, il nous donne de la force et multiplie nos ressources, comme le dit ce passage. Nous pouvons alors prendre notre envol comme les aigles. Nous courons sans nous épuiser. Nous marchons sans nous fatiguer. Et Ésaïe 42, notre texte d'aujourd'hui, vient compléter cela en disant que ce sera le rôle de Jésus de faire tout cela. Il nous console, il nous donne la force. Et ça me fait penser aussi à Matthieu 11, 28 qui dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais plus que cela, il va faire justice. Il nous apporte cette espérance, et l'espérance, c'est le thème de l'année 2021 de notre Église. Il nous apporte sa justice. Et on peut se poser cette question. En quoi cela peut nous encourager lorsque nous vivons des épreuves d'injustice dans notre vie? Peut-être nous vivons actuellement des épreuves d'injustice dans notre vie. Soyez encouragés encore par ces passages. Nous sommes dans la troisième partie. Le serviteur de l'Éternel est la lumière des nations. Dans le verset 5, Dieu rappelle qu'il a créé tous ceux qui peuplent la terre. Et dans le verset 6, juste après, parmi tous ceux qui peuplent la terre, Dieu fait appel spécifiquement à un homme, son serviteur. Et dans les versets 6 à 7, c'est différent de versets 1 à 4, il s'adresse directement à son serviteur quand il dit « Je t'ai appelé, je te tiendrai, je te garderai, je t'établirai. » Et ce serviteur, il est établi par Dieu pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations. Donc d'abord, il est l'alliance du peuple. Nous pouvons nous souvenir de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, avec Moïse comme médiateur, et j'en ai parlé dans une précédente prédication, dans Exode 32, sur le veau d'or. Et ici, le serviteur de l'Éternel sera le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors, on a fait bien sûr allusion à Jésus qui nous permettra d'être une nouvelle création grâce à cette nouvelle alliance qu'il établira. Et c'est tout l'objet du Nouveau Testament, la nouvelle naissance. Et Jésus, il est ce nouveau Moïse qui a été annoncé par Moïse lui-même dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19. Et je vais lire « L'Éternel, ton Dieu, verset 15, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. » Donc c'est Moïse qui parle d'un prophète qui devait arriver, et c'est Jésus. Verset 18, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et cette nouvelle alliance, elle contraste avec l'alliance de Moïse. Ce ne sera pas seulement le peuple d'Israël, mais ce sera le peuple de Dieu avec toutes les nations représentées. Ce sera le salut par la foi et non le salut par la loi, qui n'était de toute façon pas possible. Parce que la loi, selon Galates 3, 24, nous dit que c'est un pédagogue qui était là pour nous amener à Christ, afin que nous puissions être déclarés justes par la foi. Le serviteur de l'Éternel est aussi la lumière des nations. Et Ésaïe reprend cela dans Ésaïe 49, donc c'est le deuxième chant du serviteur que j'emprunte déjà un peu en avance par rapport à la semaine prochaine. Il dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ce serviteur, il a lumière, c'est-à-dire qu'il va briller, il va éclairer, mais non seulement Israël, mais aussi toutes les nations dans toute la terre. Le Nouveau Testament reprend aussi ce rôle de lumière des nations, il va l'attribuer à Jésus. Souvenez-vous de Siméon, ce vieillard qui était dans le temple, quand Jésus devait être présenté. Dans Luc, chapitre 2, versets 29 à 32, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On voit aussi la lumière des nations dans Jean 1, versets 4 à 9. « En effet, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour en témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour en témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout être humain, toute nation. » Et enfin, dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus est donc véritablement ce serviteur de l'Éternel qui est la lumière des nations. Et rappelez-vous, le verset 4 nous dit que les îles placeront leur attente dans sa loi. Ça nous montre que cela s'étend aux nations les plus lointaines et pas juste Israël. Et ça, c'était déjà annoncé à l'époque en 700 avant Jésus-Christ. Et enfin, ce verset qui fait le pont avec nous, 2 Corinthiens 4, verset 6. « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Et je vous invite à le relire encore une fois dans votre tête. Ce serviteur de l'Éternel, il ouvre aussi les yeux. Il ouvre les yeux des aveugles, selon le verset 7. Effectivement, la lumière éclaire, elle permet de voir, elle permet même aux aveugles de voir ici. Et c'est appliqué à Jésus dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6, qui reprend lui-même Ésaïe 35, versets 5 à 6. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Alors oui, il y a le sens physique de ce passage, ouvrir les yeux, on sait que Jésus a ouvert les yeux physiquement. Mais nous pouvons aussi comprendre ce verset selon un sens spirituel. Comme quoi, en fait, les hommes sont spirituellement aveugles et ont donc besoin de recouvrir une vue spirituelle. Et on voit ça dans Jean 9, verset 39. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et Jésus parlait à ce moment-là des pharisiens qui prétendaient voir, conduire le peuple, mais en fait, qui ne voyaient pas spirituellement. Ici, Jésus parle pas seulement du coup de vue physique, mais il parle du salut. Il a donné sa vie pour que ceux qui croient en lui soient sauvés, pour qu'ils sortent de l'aveuglement spirituel dans lequel ils étaient, et pour qu'ils voient les choses avec des yeux spirituels, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Cela me fait penser à un chant. Je n'ai pas prévenu Mike. Donc, est-ce que Mike, avec ton équipe, tu peux venir chanter Amazing Grace ? Non, je rigole. Donc, ô grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi, j'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, je vois. Et je crois que c'est vraiment ce que nous étions avant de connaître Christ. Nous ne voyions pas. Je suis un imparfait. Le serviteur de l'Éternel fait sortir des ténèbres. Il fera sortir le détenu de prison. Alors là, il ne faut pas comprendre au sens physique, hein, c'est au sens spirituel. Il fait sortir des ténèbres. En effet, la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et dans Luc 4, versets 16 à 19, donc Luc cite aussi Ésaïe. Donc vous voyez que Ésaïe est beaucoup, beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il en va de même par rapport aux ténèbres, et on voit ça aussi dans Éphésiens 5, versets 6 à 8, « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, nous dit l'apôtre Paul, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, donc on était ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. » Qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, nous venons de voir un portrait du serviteur de l'Éternel. Un premier portrait, parce qu'il va y en avoir quatre. Jésus. Il n'était pas seulement la lumière pour Israël, mais il était aussi la lumière pour toutes les nations, y compris nous. Et face à cette évidence, cet après-midi, il y a une réponse de notre part à apporter. Vais-je suivre cette lumière ? Vais-je suivre cette lumière ? Jésus délivre les prisonniers que nous étions de notre ancienne manière de vivre, selon nos péchés passés. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est juste magnifique lorsque nous pensons à ce que nous étions autrefois, avant de connaître notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons régulièrement remercier Dieu pour le chemin parcouru. Nous pouvons compter les bienfaits, et cela ne fait que commencer. Et peut-être que pour certains, vous avez toujours grandi avec Dieu. Et vous avez l'impression que il n'y a pas vraiment un moment où vous avez remis en cause votre foi. C'est possible, je connais certains aussi qui sont comme ça. Mais même si vous ne vous en souvenez pas, il y a eu un changement dans votre vie. Au moment où vous avez donné votre vie à Jésus. Ça peut être tout petit, vous en souvenez pas. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. On était des ténèbres, on est passé à la lumière. Et dans ce cas, je vous invite à essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être votre vie sans le Seigneur. Vous n'avez pas forcément connu le avant, vous ne vous en souvenez pas, mais essayez d'imaginer ce qu'aurait été votre vie sans le Seigneur. Comment auriez-vous réagi dans les moments d'épreuve les plus durs de votre vie si le Seigneur n'était pas là avec vous? Et enfin, peut-être que pour certains parmi vous, vous entendez ce message, mais vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Et dans ce cas, il est encore possible aujourd'hui de reconnaître votre besoin de lui, de reconnaître que vous êtes éloigné de lui à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Il est possible de croire que Jésus est mort pour vous sur la croix, afin que vous ayez la vie éternelle. Vous pouvez le faire maintenant dans votre cœur, mais vous pouvez aussi le faire chez vous, seul, en vous adressant directement à lui. Nous venons de voir que l'Éternel est ce Dieu créateur qui est le seul digne de gloire. Nous avons vu que le serviteur de l'Éternel fait justice et que le serviteur de l'Éternel est la lumière des nations. Et nous avons vu que cette prophétie au sujet du serviteur de l'Éternel s'appliquait à Jésus-Christ. Et suite à tout cela, quelle devrait être notre réaction ? Quelle devrait être notre réaction ? Eh bien, Ésaïe continue, Ésaïe 42, versets 10 à 12, et je vous propose de lire ensemble. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Kédar, c'est le désert de Canaan. Que les habitants de Séla, qui est la capitale des Édomites, donc les cousins des Israélites, les descendants de Ésaü, que les habitants de Séla expriment leur allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on donne gloire à l'Éternel et que dans les îles, on proclame ses louanges. Donc la réponse, c'est que nous pouvons, suite à ce que nous avons entendu, eh bien notre réaction naturelle, ça devrait être de chanter, de louer l'Éternel. Et pendant que nous allons prier, je propose que l'équipe de louange s'installe tout doucement pour chanter le chant « Jésus-Christ est Seigneur ». Je vous invite à prier. Et peut-être que Laurent, tu peux mettre un fond un peu musical. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es ce roi éternel, tu es ce roi créateur, tu es ce roi digne de gloire, ce roi qui connaît l'avenir. Qui connaît l'avenir parce que c'est toi qui le crée, Seigneur. Seigneur, rien ne peut échapper à ta volonté, à ton regard, parce que tu es ce Dieu souverain. Seigneur, merci aussi pour le serviteur de l'Éternel. Merci parce que cette prophétie, elle a été annoncée 700 ans avant, Seigneur. Et Isaïe l'avait annoncée et ça s'est vraiment produit. Et Seigneur, peut-être que nous avons reçu des promesses de ta part qui tardent à accomplir. Et peut-être on n'attendra pas 700 ans, Seigneur, mais Seigneur, ça nous donne vraiment du baume au cœur pour te faire confiance encore. Parce que nous croyons, Seigneur, que ta promesse s'accomplit et que toutes les promesses que tu as faites dans ta parole vont s'accomplir, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es le maître du passé, du présent et du futur, Seigneur. Et que notre vie est entièrement entre tes mains, Seigneur. Je te prie encore toutes ces choses dans le nom de Jésus. Et je te prie aussi, Seigneur, pour te remettre toutes les personnes qui sont encore peut-être éloignées de toi, Seigneur, qu'elles puissent revenir ou venir tout simplement à la lumière, Seigneur. Sortir des ténèbres, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Tu es Seigneur de notre vie. Amen.